9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, deux invités ce matin pour tenter de comprendre ce qui va nous arriver demain. Thierry Breton, le commissaire européen en marché intérieur. Que fait l'Europe? Où est la coordination entre États membres? Les frontières doivent-elles rester ouvertes? Comment protéger les populations sans faire mourir les entreprises? La crise va-t-elle nous inciter à relocaliser nos industries, celles notamment du médicament? Thierry Breton avec nous à partir de 9h30. Mais d'abord un médecin scientifique, président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Axel Kahn.
Bonjour Patrick Cohen.
J'accueille ce matin le président de la Ligue nationale contre le cancer, soucieux, comme nous tous, des personnes les plus fragiles. On va en parler. Je voudrais d'abord interroger le médecin, généticien, scientifique, passionné de réflexion éthique, humaniste. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver?
Il nous arrive un épisode qui ressemble, en effet, je vous entendais l'évoquer tout à l'heure hors micro, la grippe asiatique, c'est-à-dire qu'il y a une maladie contre laquelle il n'y a aucune protection, ni vaccinale, ni liée à une infection, à une épidémie antérieure, qui se répand en Europe et dont on connaît tous les paramètres, c'est-à-dire le degré d'infectiosité et également la morbidité. Et à partir du moment où cette épidémie arrive en Europe, tout est presque mathématique en réalité. Donc il nous arrive ce qui devait arriver lorsque le virus est arrivé en Europe, et il était clair qu'il devait arriver en Europe.
C'était prévisible, et donc ça n'a pas été bien anticipé.
Enfin, c'était évidemment prévisible. Je suis président de la Ligue, et cela fait bientôt un mois que j'ai prévu toutes les étapes, y compris le blackout total, et parce que nous nous devons à ces 4 millions de personnes qui ont eu un cancer, plus 1 400 000 qui sont traitées encore pour cancer, nous nous sommes mis en disposition pour ne pas leur manquer, pour pouvoir leur répondre, pour pouvoir les informer, pour continuer toutes nos activités, évidemment par le télétravail, en montant le degré d'efficience de tous les appareils, etc. etc. Et ce que nous avons fait, nous, il y a 3 semaines, 1 mois, évidemment, tout le monde pouvait le faire parce que les paramètres étaient certains.
Y compris le gouvernement et les autorités de santé, c'est ce que vous nous dites.
Je crois que le gouvernement sont des politiques, donc ils doivent être informés, en effet, par les autorités de santé. Je ne vais pas prendre ici d'avis et je ne vais pas faire de commentaires sur les décisions politiques. D'abord parce que la Ligue, évidemment, est totalement, complètement, absolument apolitique. Mais en revanche, je puis parler de ce que je connais pas mal. Je connais bien les génies des épidémies, pour deux raisons. Oui. La première, c'est que très jeune médecin, j'étais médecin-chef d'une très grande préfecture en Afrique, en République centrafricaine, pendant 2 ans. Et la deuxième raison, c'est que j'ai été le créateur et le rédacteur en chef pendant 15 ans d'une très importante revue biomédicale, médecine-science, qui a suivi évidemment toutes les épidémies, toutes les pandémie ou début de pandémie, parce qu'il n'y en a pas eu d'aussi grave, je vous l'ai dit, depuis la grippe asiatique, qui se sont répandues. Et donc, en effet, ce sont des paramètres qui me sont assez familiers.
Oui, mais il y a quand même très peu de précédents et pas de précédents récents.
Le précédent de ce type, c'est effectivement la grippe asiatique.
Grippe asiatique, vous parlez de l'épisode de 57, hein?
Celui
de 69.
Du SRAS. 1920.
La grippe espagnole.
D'accord,
1918.
J'ai dit grippe asiatique parce qu'en réalité,
tous les épisodes.
En réalité, elle venait, on l'a appelée espagnole, c'est vrai. Ouais. Mais en réalité, elle venait d'Asie. Le principal épisode, c'est la grippe espagnole, ce qu'on a connu sous le nom de grippe espagnole, effectivement, qui s'est répandue tout à fait librement dans une population naïve et dont on connaît exactement les effets. C'est vraiment comparable, si vous voulez. Alors, les paramètres ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est assez comparable à ce qu'était cet agent infectieux, avec évidemment des différences. C'est qu'on soigne beaucoup mieux, on détecte beaucoup mieux et qu'il y aura moins de dégâts. Mais comme génie épidémique, c'est assez comparable.
Mais vous comprenez que la population, les Français, dans leur grande majorité, sont étonnés de notre vulnérabilité face à un microbe venu du bout du monde ?
Oui, mais vous savez, le microbe, il ne connaît pas de frontières, lui. À partir du moment où les personnes qui portent et diffusent le microbe prennent l'avion et voyagent dans ce village mondial qu'est la Terre, tous les jours par milliers, il n'y a absolument aucune frontière qui peut arrêter un virus ayant ce degré d'infectiosité.
Ce matin, Axel Kahn, vous êtes inquiet ou confiant face à la capacité de notre système de santé, inquiet ou confiant face au comportement des Français tels qu'ils ont été réprimandés d'une certaine façon hier soir par le Premier ministre qui a
Je suis les deux, Patrick Cohen, je suis les deux. Je ne suis pas trop inquiet. Ce n'est pas une catastrophe, l'humanité n'est pas menacée. Il faut le dire, l'humanité n'est pas menacée. Dans 85% des cas, au moins, cette infection est bénigne. Et donc, lorsque l'infection aura reculé, évidemment, le monde repartira en avant comme si de rien n'était. Comme il est reparti en avant dans les années folles. Après tout, les années folles, ils ont suivi la grippe espagnole. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Est-ce que je suis, d'un autre côté, soucieux? Oui, parce que les aînés, j'en fais partie. Les personnes fragiles et évidemment les personnes qui sont en traitement pour cancer sont sans doute fragilisées. Ces personnes sont particulièrement menacées. Par ailleurs, je ne gomme pas d'un trait, je ne biffe pas la possibilité qu'il y ait des dizaines, des centaines de milliers de morts. Évidemment, c'est pas rien quand même. Donc, je ne suis pas catastrophiste parce que l'humanité en a vu bien d'autres. Et pour l'essentiel, c'est une maladie qui est bénigne pour l'immense majorité des personnes. En revanche, est-ce que les systèmes de santé vont être profondément affectés? Est-ce que les personnes fragiles sont réellement menacées? Dont les personnes fragiles, dont la Ligue est éperdument solidaire. Notre raison d'être, notre raison de nous engager, ce sont les personnes qui sont atteintes de cancer. 4 millions de personnes en France. Imaginez, Patrick Cohen.
On va en parler dans un instant. Juste que vous nous disiez ce que vous pensez du comportement des Français, de cette apparente insouciance manifestée ces derniers jours et encore ces dernières heures, je rappelle, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, les Parisiens dans les bars se rassemblant et buvant jusqu'aux dernières heures avant la fermeture des établissements. Est-ce qu'on aurait dû faire peur? Est-ce qu'on aurait dû être plus alarmiste pour changer les comportements?
Alors il y a deux questions là. La première, c'est qu'est-ce que je pense du comportement des Français? Vous savez, Patrick Cohen, le comportement n'est pas lié par la rationalité uniquement. Vous-même, souvent, vous rigolez, vous essayez de trouver des moments de connaître le plaisir, toutes les formes, etc. etc. Et ce n'est pas la rationalité qui vous habite. Eh bien, que les Français, à un moment donné, ils se disent « on va en baver ». Pendant un mois et demi, il n'y aura plus de fêtes, de petits repas, etc. Il faudra qu'on soit chez soi et qu'ils en profitent une dernière fois. C'est psychologiquement normal. Est-ce qu'il aurait été raisonnable d'être plus clair dans ce qui se préparait? Je vais vous dire, mon sentiment est que sans doute, et pour ce qui nous concerne, à la Ligue, nous l'avons été.
Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. On marque une pause, on vous retrouve dans un instant.
Europe 1. 9h10 le dimanche sur Europe 1. Vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen.
Avec notre premier invité, Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Et je le disais, soucieux évidemment des plus fragiles. Les personnes dont le système immunitaire est affecté pour une raison ou pour une autre sont plus vulnérables à l'épidémie
Oui, toutes les personnes dont le système immunitaire, dont le rôle notamment, est de lutter contre les infections, sont évidemment plus sensibles aux infections. Et beaucoup des traitements contre les cancers, pas tous mais beaucoup, affaiblissent l'immunité. Et donc ces personnes doivent être considérées comme à risque. Mais il y a deux risques et il faut les traiter tous les deux. Le premier, c'est que, épouvantés, ils arrêtent leur traitement, alors que le cancer est une maladie plus grave que le Covid-19, bien entendu. Et donc, ils doivent poursuivre leur traitement. Mais d'un autre côté, il faut tout faire pour qu'ils puissent poursuivre leur traitement en minimisant les risques de surinfection par Covid-19. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé d'abord une alerte et nous donnons des recommandations, nous donnons des conseils pour essayer de garder ces deux fers au feu. Continuez votre traitement parce que votre but et notre but à tous, c'est que vous soyez guéris, ne soyez pas infectés, prenez des précautions supplémentaires même par rapport à tout le monde, car c'est vrai, vous avez une fragilité particulière.
Une fragilité qui peut être aussi psychologique, quand l'environnement social disparaît parce que les visites sont proscrite ou fortement déconseillée, eh bien, on a des personnes qui sont dans un état de fragilité physique et qui se retrouvent seules. C'est vrai aussi pour les personnes les plus âgées. Axel Kahn, comment on fait ?
Oui, c'est vrai. Pour les personnes atteintes de cancer, on a l'habitude de certains types de traitements qui les isolent. De toute façon. Donc, c'est une aggravation de la situation, mais ça n'est pas un phénomène totalement nouveau. Et puis, il y aura au moins les soins, les gens qui doivent l'entourer. Et il faut que les aidants, eux aussi, fassent très attention. Très attention, surtout, à ne pas les contaminer. Et là, il y a toute une série de conseils que l'on peut donner. Mais il y a un autre risque. Et ça, en tant que président de la Ligue, je suis très concerné. C'est que ces personnes, la Ligue en particulier, qui est de loin la plus importante organisation aidant les personnes malades de cancer, arrivent à fonctionner uniquement avec la générosité publique. Mais que voulez-vous, tout le monde est terriblement inquiet. Et dans cette inquiétude, les donateurs généreux, ils ne pensent pas tellement à être généreux sur le moment. Ils pensent à se préserver. Et alors, il peut y avoir la triple peine pour les personnes atteintes de cancer. D'une part, ils ont un cancer. D'autre part, ils sont, quand ils sont traités, fragiles. Et troisièmement, l'aide que l'on peut mobiliser pour leur venir en aide, pour les conseiller, risque de considérablement diminuer. Donc, je m'adresse véritablement à tous vos auditeurs. Certes, essayez de vous préserver. Je vous souhaite bonne chance. On va arriver à franchir cette période. Mais pensez à ceux qui sont encore plus menacés que vous. Pensez à la générosité. S'il vous plaît, ils en ont besoin plus maintenant que jamais.
La Ligue contre le cancer qui débute sa semaine internationale.
Voilà, il débute la semaine internationale. Et à cette occasion, vous pouvez vous informer sur notre site. C'est facile, ligue-cancer.net. Et vous pouvez également en ligne donner.
Vous parliez il y a un instant, Axel Kahn, des comportements personnels de ceux des aidants, par exemple, auprès des personnes malades. Quel conseil est-ce que vous donneriez à ceux qui nous écoutent, en plus des conseils officiels qui sont largement diffusés par les autorités de santé et par le gouvernement ?
Il faut que les aidants, au moindre doute, à la moindre alerte, portent un masque, c'est évident. Il faut que les aidants soient en nombre minimal, ce qui est nécessaire pour aider la personne malade. Il ne faut pas qu'ils viennent avec toute leur tribu pour dire bonjour et pour essayer d'égayer papy, mamie qui est atteint d'un cancer. Il y a une période qui est comme cela et il faut prendre des précautions tout à fait particulières parce que ces personnes sont comme vous et moi. On est un peu, pas trop, mais un peu en danger. Mais eux, ils sont un peu plus en danger.
Est-ce qu'il faut continuer à prendre les transports collectifs ?
Alors, je vais vous dire, nous à la Ligue, on a dit à toutes les personnes qui devaient prendre les transports collectifs de cesser de venir à la Ligue. Et ça, on avait pris la décision déjà il y a 3 semaines de cela.
Bus,
on avait
métro, dit, train.
Oui, parce que je ne vais pas vous dire qu'il y a un danger particulier, mais là où vous côtoyez inévitablement le plus de personnes, quoi que l'on fasse, c'est évidemment l'autobus, le métro, le train. Donc, nous avons demandé à nos salariés, ils sont des centaines, vous savez, sur le territoire, nous avons demandé à nos salariés de venir sur la base du volontariat, et il y a des volontaires parce qu'ils sont courageux, sont des ligueurs, comme on dit, mais s'ils peuvent venir à pied, à vélo, ou alors en voiture individuelle par covoiturage, et autrement, de ne pas venir.
Question éthique, Axel Kahn, est-ce qu'il faut, dans une telle crise, la plus grande transparence sur l'épidémie et sa progression, la situation des services et des personnels de santé, les prévisions des experts. Est-ce qu'il faut tout publier, quitte à faire peur, à accroître la peur, ou est-ce que les autorités sont fondées à minimiser certaines situations pour ne pas déclencher la panique ?
Ce qu'il faut surtout éviter, c'est l'incohérence du ton selon les jours. Passer d'une information rassurante à une information extraordinairement alarmante. Ça, c'est psychologiquement insupportable par les personnes. Il faut à la fois la mobilisation, le non-déni, mais évidemment la sérénité. Et persister dans la sérénité, le non-déni et la responsabilité. Tout dire, certes, mais ne pas écraser les gens sous la terreur, parce qu'ils ne seraient plus capables de réagir. On essaye de faire cela et il faut dire, c'est vrai, cette maladie, elle n'est pas grave pour l'immense majorité des personnes. Mais On a dit à un moment donné, c'est la grippe, on en fait trop. Non, depuis le début, on sait que ce n'est pas la grippe. La grippe saisonnière, je veux dire. On sait que ça n'est pas la grippe saisonnière. On sait que la grippe saisonnière, on est vacciné contre, on l'a déjà fait, on est immunisé. Ce n'est pas du tout le cas de ce virus qui est nouveau, que l'on n'a jamais rencontré. Et donc, il y aurait eu un peu plus de continuité, de cohérence dans le discours. Cela eût été préférable, voyez-vous.
Mais par exemple, il y a des modélisations de l'évolution épidémique, des modélisations mathématiques qui ont été réalisées avec des chiffres de malades prévus dans les prochaines semaines, des dates, etc.
Oui,
il faudrait les publier, ça, ou pas ou...
Alors moi, je les ai publiés. Hein. Nous, on les a publiés. Ce qu'on ne sait pas du tout. Alors, ça dépend de deux choses. Ça dépend, il y a un confinement social ou il n'y a pas. Sans confinement social, tout est connu. Donc, l'épidémie augmente. Lorsqu'on est à 50% de la population...
On a une cloche.
Voilà.
Une
50%
cloche,
de la population qui a été atteint, qui développe une immunité. L'épidémie commence à régresser. Quand on est à 75% de la population qui a été atteint, elle disparaît. Mais évidemment, il y a pas mal de gens qui sont restés sur le carreau. Il semble que les Anglais ont choisi cette stratégie. Elle est défendable. Ouais. Après tout, ce sont les personnes les plus fragiles qui sont les plus menacées. Ouais. On peut considérer que les personnes les plus résistantes, elles vont continuer l'activité, etc.
Ou alors... Ils ont changé hier soir un peu, les
voilà,
Anglais.
Ils ont changé. Oui. Ou alors, c'est le confinement social. Il n'y a pas d'autre possibilité d'enrayer une telle épidémie. Il n'y en a pas d'autre que le confinement social. Le plus important, c'est le mieux.
Merci beaucoup Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer, d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, où est l'Europe? Que fait l'Europe? Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, est notre invité jusqu'à 10h.
Europe 1. C'est arrivé demain, la suite sur Europe 1. Patrick Cohen, on vous retrouve aux côtés de Thierry Breton, commissaire européen pour le marché intérieur.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour Patrick Cohen.
Une crise mondiale inédite dont l'Europe est maintenant l'épicentre et des pays qui décident chacun pour soi sans même consulter le voisin. Où est l'Europe? Que fait l'Europe dans cette crise?
Oui, c'est effectivement, vous avez raison de le rappeler à nos auditeurs ce matin. Nous sommes dans une crise tout à fait inédite, une pandémie. Et effectivement, l'Europe est en train de devenir l'épicentre désormais de cette pandémie. Alors, il ne faut pas évidemment... paniquer, mais il faut respecter strictement les consignes qui seront données. Où est l'Europe? L'Europe coordonne. L'Europe coordonne sans relâche. J'ai été moi-même, du reste, en tant que commissaire chargé du marché intérieur, désigné comme, avec mes équipes, devant coordonner, c'est depuis mardi dernier, l'ensemble des approvisionnements nécessaires, essentiellement ceux pour protéger les personnels hospitaliers. C'est une priorité.
Alors oui, c'est vrai. Parce que la France et l'Allemagne avaient interdit leurs exportations de matériel médical, c'est fini?
Alors c'est vrai, vous avez raison. Au début, un certain nombre de pays, dont effectivement la France et l'Allemagne, ont vu des phénomènes tout à fait anormaux dans ce type de situation. Hélas, quelquefois fréquents, de personnes qui ont voulu spéculer sur ces matériels. Et donc, les deux pays ont décidé, je pense qu'ils ont eu raison, et la France et l'Allemagne, de bloquer les stocks, de voir effectivement ce dont nous disposions dans ces pays respectifs, et d'éviter la spéculation. Ceci est fait. Alors c'est vrai que derrière, des décisions ont été prises pour éviter que les matériels, pendant cette période, sortent et de la France et de l'Allemagne. Nous avons eu des discussions et à la fois avec les autorités françaises et avec les autorités allemandes. Et je suis heureux de vous annoncer ce matin que désormais, la possibilité d'export est à nouveau rétablie, bien entendu sous contrôle strict. Et du reste, l'Allemagne a annoncé, pas plus tard qu'hier, que plus d'un million de masques allaient tout de suite être envoyés en Italie, dont je rappelle que c'est le pays qui aujourd'hui est le plus touché et que c'est celui qui a le plus besoin d'équipement.
Donc l'Italie va recevoir enfin des masques et des gants de protection qui étaient... très attendu dans ce pays touché.
Non, encore une fois, pas enfin. Je suis évidemment au jour le jour. Ouais. Les évolutions, les exportations donc, et les importations pour l'Italie de ces matériels se poursuivaient, évidemment. Il y avait uniquement ces deux pays, donc je l'ai rappelé pour les raisons que j'ai indiquées. L'Italie continue à être fournie, c'est notre priorité. Je me suis entretenu très longuement hier avec le ministre de la Santé italien. J'ai une vision très claire des besoins qu'il m'a exprimée. Voilà, on va tous se mobiliser pour que l'Italie puisse les avoir, mais il faut évidemment plusieurs millions de masques pour pouvoir protéger les personnels de santé, c'est la priorité.
Thierry Breton, chacun en Europe découvre a posteriori ce qu'a fait l'autre. Il n'y avait pas moyen d'instaurer dès la fin janvier un pilotage européen ou tout au moins une coordination européenne?
Alors c'est partiellement inexact, Patrick Cohen. Nous savons depuis maintenant, dès que l'épidémie, puisque c'était une épidémie au début, a été déclarée en Chine. Je voudrais d'abord rappeler à nos auditeurs que l'ensemble des pays européens, et l'Europe, sous contrôle de l'Europe et sous initiative européenne, a envoyé immédiatement, dès le mois de janvier et février, des tonnes de matériel pour 240 millions d'euros de matériel, donc plus de 50 tonnes de matériel, pour les Chinois, et notamment dans la région qui était affectée, car ils nous l'ont demandé, et notamment à la Croix-Rouge. Désormais, l'épidémie, Dieu soit loué, semble maintenant régresser significativement en Chine, et donc les Chinois, comme vous l'avez vu du reste, quand des demandes sont exprimées, nous font part et nous permettent d'avoir accès à ces matériels à nouveau. Et c'est, je crois, le signe que dans cette pandémie, la coopération internationale est absolument essentielle et critique.
Il faut que les dirigeants européens se parlent davantage, Thierry
Breton.
Non,
ils se parlent et vous savez...
Ils ont parlé mardi dernier pour la première fois lors d'un sommet virtuel.
Non, les ministres de la Santé, et notamment Stella Kyriakides, qui est en charge précisément, commissaire à la Santé pour l'ensemble de l'Union européenne, se réunissent, vous savez, plusieurs fois par semaine, depuis maintenant des semaines et des semaines. Donc, nous avons une vision très claire de ce qui se passe au niveau du continent. La réalité, c'est qu'effectivement, depuis mardi dernier, comme je vous l'ai dit, les États membres ont demandé à ce que ce soit désormais la Commission qui contrôle, qui coordonne l'approvisionnement dont nous avons besoin au niveau des États membres. Car voyez-vous, cette épidémie, cette pandémie, évidemment, elle a des cycles, une temporalité différente. On voit bien qu'elle se développe à partir de foyers. Aujourd'hui, le foyer le plus important est évidemment en Italie. Nous en avons désormais un important en France, en Espagne, en Allemagne. Mais les temporalités sont différentes. Donc non seulement nous apprenons de ce qui se passe, mais nous pouvons aussi mieux coordonner les besoins lorsque ceux-ci se font connaître.
Et la crise sanitaire, la grande crise est à venir, Thierry Breton ?
Ce n'est pas tellement la crise sanitaire, on est dedans. Et je le rappelle, il faut vraiment que chacun et chacune applique à la lettre les consignes qui sont données, car ce n'est pas le virus qui se déplace, ce sont les hommes, les femmes qui portent le virus et qui le transmettent aux uns aux autres. Le virus ne se déplace pas lui-même. Donc les consignes, sont des consignes de confinement, sont absolument essentielles pour limiter précisément la propagation, alors que l'on voit qu'effectivement, sans cela, un pic peut apparaître. Et ce pic, bien entendu, fort heureusement, ce virus a des conséquences létales qui sont malheureusement tragiques, mais disons limitées par rapport au nombre de personnes qui sont infectées. Mais le problème, évidemment, c'est les hôpitaux, c'est évidemment l'accès effectivement aux respirateurs si c'est nécessaire. Et donc là, il faut éviter les engorgements. Et c'est pour ça que la coordination est absolument indispensable.
On va détailler les mesures, examiner ce qui a été annoncé et ce qui pourrait l'être demain avec vous, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, après une pause.
Europe 1. Bon week-end, chaque dimanche de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen. Vous écoutez cette arrivée demain
Breton,
sur Europe 1.
Commissaire européen au marché intérieur, à la politique industrielle, l'économie numérique, la défense, l'espace. Un marché intérieur qui doit continuer de fonctionner avec des frontières ouvertes.
C'est absolument essentiel pour plusieurs raisons. D'abord, tout simplement, pour pouvoir acheminer les matériels dont chaque État va avoir besoin. Alors nous avons, on en parlait tout à l'heure, Patrick Cohen, une vision claire des besoins aujourd'hui en Europe, de ces fameux matériels, notamment de protection des personnels de santé, les endroits où ils sont fabriqués, les endroits où ils sont également stockés et redispatchés. Et donc, quiconque fermerait ses frontières, et notamment il y a aujourd'hui, à ce jour, quatre pays qui en ont manifesté le souhait, se verraient, évidemment, je ne dis pas du tout puni, mais ça serait empêché précisément, lorsque les besoins vont se faire sentir. Et nous savons, hélas, que dans tous les pays, les besoins se font sentir. Donc il faut cette coordination. Mais au-delà de ça, il est absolument indispensable que le marché puisse fonctionner, que les approvisionnements puissent fonctionner. Et puis vous savez, le virus ne connaît pas les frontières. En revanche, ce qui est très caractéristique à cette épidémie, je ne suis pas scientifique moi-même, bien entendu, mais nous apprenons en temps réel, si je puis dire, de ce qui s'est passé dans d'autres pays, en particulier la Chine ou la Corée. Le virus se développe évidemment par foyer, et donc ce qui est très important, c'est de confiner ces foyers. Il est rare du reste que les foyers rencontrent les frontières naturelles ou artificielles qui caractérisent l'Europe. En revanche, ce qui est important, c'est qu'effectivement, quand un foyer est apparu, qu'on confine une ville, un département, une région, et c'est effectivement ce qui va être fait.
Mais la question qui est posée, Thierry Breton, aujourd'hui, c'est comment arbitrer entre ces deux impératifs, protéger les populations et protéger l'économie. Est-ce qu'on veut faire les deux?
Alors c'est effectivement le deuxième volet. La priorité d'abord, c'est évidemment les populations. C'est la priorité absolue. C'est la santé. Et je le redis, c'est d'abord la protection des personnels de santé qui font un travail absolument extraordinaire. Enfin, le ministre de la Santé italien avec qui je m'entretenais hier me racontait les conditions. C'est absolument extraordinaire et admirable. C'est vrai aussi en France, c'est vrai dans tous les pays de l'Union, croyez-moi Patrick Poel. Donc ensuite, évidemment, il y a nos 450 millions de concitoyens européens, et qui est la priorité, c'est de les protéger. Et puis derrière la conséquence immédiate, on le sait, c'est une mise à l'arrêt partielle de notre économie. Et encore une fois, je le dis, rendue nécessaire, il faut l'accepter. Mmh. Nous sommes, vous savez, j'ai coutume de le dire, nous sommes d'une certaine façon en guerre. C'est une guerre inédite, certes, mais nous sommes en guerre contre le virus. Ça durera ce que ça durera, on gagnera cette guerre. Mais il faut maintenant que nous soyons tous ensemble, solidaires et responsables. Et l'une des conséquences, c'est qu'effectivement, nous devons accepter de nous mettre un peu à l'arrêt, travailler chez soi, à l'arrêt pour une partie de l'économie.
Mais sans tuer les entreprises.
Mais effectivement, sans tuer les entreprises.
Alors comment ?
Et c'est la seconde priorité, et la seconde priorité, évidemment, du commissaire au marché intérieur que je suis. C'est une priorité absolue. Faire en sorte que toutes les entreprises, dont certaines vont avoir, et je le sais sans doute mieux que d'autres à cause des informations qui me remontent heure par heure, certaines ont des problèmes de liquidité. C'est la raison pour laquelle la décision qui a été prise de la Banque centrale est fondamentale. Il faut absolument que les banques aujourd'hui soient solidaires également. Elles ont des moyens maintenant de pouvoir avoir accès à ces liquidités qui ont été mises à leur disposition par la Banque centrale. Il faut qu'elles prêtent immédiatement et pas attendre qu'on ait les ratios de solvabilité. On va regarder tout ça. On est en situation, encore une fois, je le dis, pardon, je ne veux vraiment utiliser les mots avec prudence et avec soin, mais oui, dans cette période de guerre contre le virus, il faut absolument que chacun joue son rôle en responsabilité, les banques donc auprès des entreprises, l'État et les États, vous savez, je le vois, ont tous pris des décisions importantes, et notamment permettre l'échelonnement des paiements, différer ses impôts, les charges sociales, c'est absolument important. L'Union a mis en place, du reste, des moyens très significatifs, plus de 40 milliards d'euros, c'est du reste l'équivalent de ce que les États-Unis ont annoncé, donc l'Union européenne fait beaucoup, comme les États-Unis, hein, par parenthèse, parce qu'on dit souvent que c'est ailleurs, c'est faux. Les États membres vont mettre beaucoup d'argent d'accompagnement. Nous, évidemment, on est dans un cas, inutile de le dire, de force majeure. Donc, évidemment, les montants qui seront mis à disposition des entreprises et de l'activité économique ne seront pas comptabilisés selon les critères maastrichtiens. C'est une évidence. Mais je le
on tire un trait provisoirement sur le pacte de stabilité.
Absolument pas.
Les 3% de déficit.
Alors, on ne tire pas un trait sur le pacte de stabilité, car le pacte de stabilité prévoyait précisément des circonstances comme celle-ci qui permettaient évidemment de pouvoir
s'affranchir des règles habituelles.
Des règles, et notamment de celle du 3%.
Quoi qu'il en coûte, a répété Emmanuel Macron jeudi, c'est la bonne formule. Quoi qu'il en coûte.
Il a... Alors, évidemment, je n'ai pas commenté ce que disent les chefs d'État et de gouvernement des États membres, mais ce que je peux vous dire, et je ne veux pas faire de langue de bois, c'est qu'il a vraiment été pris conscience, bien entendu, c'est une réalité de la situation, mais il a dit ce qu'il fallait dire. C'est une évidence. Il l'a dit, je crois, avec force, et c'était tout à fait nécessaire. Oui, prenez cette phrase, quoi qu'il en coûte, c'est vrai que c'est
whatever it takes. C'est tout ce qu'il faudra, avait dit, elle, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen.
Oui, c'est exact, et donc on s'inscrit dans cette lignée.
Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, est notre invité ce matin. On marque une dernière pause.
Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1 le dimanche jusqu'à 10h. Vous écoutez cette arrivée demain et c'est avec Patrick Cohen.
Avec le commissaire européen Thierry Breton, au début d'une crise dont personne ne peut prédire l'ampleur, mais qui pourrait être aussi désastreuse que celle de 2008.
Alors, il est impossible de, effectivement, comme vous le dites, puisqu'on ne peut pas prédire l'ampleur, on ne va pas prédire ses conséquences. Ce qui est absolument certain, c'est que les conséquences économiques, on vient d'en parler, Patrick Cohen, elles seront évidemment importantes, puisque désormais, on prévoit, enfin, les prévisionnistes d'être en récession, disons, sur la zone euro et sur l'Europe dans son ensemble, vraisemblablement en 2020. Mais l'essentiel, c'est évidemment que on ne laisse personne sur le bord de la route. C'est évidemment l'essentiel. Alors derrière, évidemment, même si, je le répète, notre priorité, ma priorité, c'est évidemment les personnes, la santé, la protection de nos concitoyens et le maintien de l'activité dans cette phase transitoire. Je le répète, nous sommes dans une phase transitoire. On n'est pas comme dans la crise de 2008. Là, c'est une phase transitoire. Il faut passer ce cap. Combien de temps cela va durer ? Un mois, deux mois, peut-être trois mois ? Nul ne le sait aujourd'hui, mais on passera ce cap. Évidemment, derrière, les questions seront posées, Patrick Cohen. On les entend déjà sur le fait que nous entrons vraisemblablement dans une ère dite de post-globalisation, mais on y était déjà rentré avant le coronavirus. Vraisemblablement, ce qui se passe en ce moment va sans doute redessiner beaucoup de choses. J'avais du reste moi-même annoncé une nouvelle politique industrielle pour l'Union européenne, et donc qui va aller complètement dans ce sens, de cette ère de post-globalisation.
Par exemple pour les médicaments, parce qu'on a découvert à l'occasion de cette crise que le paracétamol, l'ibuprofène, la pénicilline, les vaccins, tout ça nous vient pour l'essentiel de la Chine et de l'Inde. Il faut relocaliser, démondialiser, Thierry Breton.
Encore une fois, on ne va pas tout bouleverser, mais il est absolument certain que les chaînes d'approvisionnement vont être revues. C'était, je le dis, déjà engagé. Ce sera certainement accéléré. Ceci dit, on continuera encore une fois à être dans une phase de globalisation, mais certainement plus maîtrisée.
Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un grand projet du type... On parle d'un Airbus du médicament.
Alors, j'aime pas trop mais oui, l'ensemble de la façon dont on va développer, projeter maintenant, et une fois qu'on sera évidemment sorti de cette crise, l'industrie européenne, c'est par écosystème. Des écosystèmes, ce sont évidemment tout ce qui concerne des secteurs, mais derrière les secteurs, toutes les entreprises, les petites et moyennes entreprises, tous ceux qui travaillent, pour l'automobile par exemple, pour la santé par exemple. Donc oui, dans l'écosystème de la santé, nous allons revoir l'ensemble des chaînes d'approvisionnement de façon à ce qu'il y ait plus d'autonomie. Et puis je voudrais dire une chose qui est très importante. Cette crise, elle est évidemment mondiale. Et dans une situation comme celle-ci, c'est la solidarité qui doit primer. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une solidarité qui s'établit dans les deux sens. Avec la Chine, elle doit être mondiale. Et je le dis en particulier avec nos amis américains, ils rentrent, eux, dans cette pandémie, puisque, comme vous le savez, des foyers importants ont sans doute été détectés, et notamment sur la côte ouest, à Seattle, dans l'état de Washington, dans l'état de Californie également, là où il y a le plus de sino-américains, évidemment. Et donc, chaque continent va vivre cette pandémie à son rythme. La solidarité est indispensable.
Est-ce que l'Europe est encore capable d'une telle ambition collective? On a vu le mois dernier l'échec du sommet de février, l'impasse des discussions sur le budget européen, l'étalage de tous les égoïsmes.
Patrick Cohen, je ne reprends, pardon de vous le dire comme ça, mais absolument pas ces mots. Et je pense que, si vous me permettez, ils sont trop caricaturaux.
Il n'y a pas eu d'égoïsme ?
Non, il n'y a absolument pas eu d'égoïsme. Il y a tout simplement le fait que nous sommes une grande démocratie en Europe. Dans cette grande démocratie, comme dans toutes les démocraties, le budget est discuté. Le budget est discuté entre la Chambre, et notamment, pardon, si vous prenez une image, la Chambre qui représente les territoires, comme aux États-Unis, c'est le Sénat. En Europe, c'est le Conseil européen, les États membres. La Chambre qui représente le peuple, c'est le Parlement. Aux États-Unis, c'est la Chambre des représentants. En Europe, c'est le Parlement européen. Ce n'est pas la Commission qui fait le budget, c'est les deux chambres, le Conseil et le Parlement, qui le votent. Les discussions budgétaires aux États-Unis, ça prend des mois, voire des années. Eh bien, en Europe, figurez-vous que dans la démocratie qui est la nôtre, C'est un peu similaire, sauf que ça ne prendra pas des années. Nous sommes dans une discussion budgétaire, respectons le temps de la démocratie et ne tirons pas, s'il vous plaît, des conséquences à chaque réunion budgétaire. Attendons l'atterrissage, comme c'est le cas du reste dans toutes les démocraties.
Alors je vais vous poser la question autrement, Thierry Breton. Est-ce que, à vos yeux, c'est une crise, la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui peut démontrer l'utilité d'une Europe dotée de politiques souveraines et qui ne soit pas seulement une zone de libre-échange?
Elle le démontre tous les jours, Patrick Cohen. Nous avons des réunions de coordination tous les jours avec les ministres de la Santé, avec les ministres de l'Industrie, que je dirige moi-même, avec les ministres de l'Intérieur, avec les ministres des Affaires étrangères. Tous les jours, cette coordination, elle est à l'œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous unissons nos forces pour pouvoir mieux appréhender cette pandémie et, encore une fois, protéger, mettre les moyens là où ils sont le plus nécessaires. Et croyez-moi, dans un cas comme celui-ci, je ne connais qu'un mot, la solidarité.
Un dernier mot de politique industrielle, Thierry Breton. Il y a un besoin en Europe de ventilation artificielle, de machines, de respirateurs. Il y a des actions qui sont prises, des coordinations que vous impulsez?
Oui, alors il y a des coordinations d'une part en ce qui concerne les ministres de la Santé pour pouvoir anticiper les besoins, donc nous les avons, nous les connaissons, et également vis-à-vis des industriels. Donc ma collègue Stella Kyriakides et moi-même, nous avons créé une task force avec tous les industriels européens. Vous voyez, j'ai la liste là, je l'ai sous les yeux, et nous la suivons quotidiennement. Les industriels, je dois vous dire, jouent un rôle formidable, je leur rends hommage. Ils sont extraordinairement mobilisés. Un appel d'offres du reste communautaire va être relancé sur les respirateurs, effectivement, puisque c'est effectivement ce type d'instrument qui va être très important. Nous avons, avec l'ensemble des industriels européens, donc une réunion hebdomadaire tous les vendredis après-midi pour suivre précisément et la fabrication et la distribution. Et puis, je voudrais dire une dernière chose. Je l'ai dit un petit peu, nous sommes un peu aussi dans une situation, je l'ai dit, de guerre, situation de guerre, économie de guerre. Nous sommes en train de faire une analyse très précise de toutes les usines en Europe qui pourraient rapidement changer un peu leur ligne de production, qui pour produire plus de masques ou qui pour pouvoir fournir plus de matériel essentiel pour ceux qui en auront le plus besoin.
Merci Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Merci d'avoir répondu ce matin sur Europe 1.
Merci Patrick Cohen.
Europe 1.
Et merci à vous d'avoir suivi cette émission préparée par Marine Apruzès. Dans quelques minutes après les infos de 10h, ce sera le grand rendez-vous avec CNews et les Échos. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour, et un invité exceptionnel, le professeur Alexandre Mignon, chargé de la réanimation à l'hôpital Cochin. Contre le coronavirus, il va tout dire, même ce qu'on ne veut pas en entendre.
Ah bah très bien. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1 et à samedi prochain 9h10 pour cette arrivée cette semaine.